Qui dit été dit blockbusters américains. Nous ne les avons pas vus, mais nous allons quand même nous en parler. Independence Day, Suicide Squad, SOS Phantom, Jason Bourne, Star Trek sans limite, autant de films que nous n'attendons pas. Et nous allons vous expliquer pourquoi maintenant, à commencer par Independence Day, qui sort le 20 juillet. Jérémy, toi qui attends avec impatience une suite au chef-d'œuvre de Roland Emmerich, peux-tu nous expliquer pourquoi ?
Merde, j'ai fait cracher.
Bah écoute, quand j'ai découvert Independence Day il y a
20 ans, c'est l'anniversaire des 20 ans.
Ouais. J'étais séduit par.
Et j'ai été séduit par. J'ai adoré le côté super nanar du film, quoi. Qui se prend jamais au sérieux, le film.
Il y a 20 ans, t'adorais pas le côté super.
Non, mais à 20 ans, t'avais aimé le film. T'avais quel âge? Il y a 20 ans.
J'avais 10 ans. J'avais 10 ans,
j'avais déjà compris que c'était un super nanar.
Ça fait pas du tout l'humour.
Là, ça sortit en entre deux sens.
S'il vous plaît.
Ah oui. Non, bon, d'accord.
Attends, il y a son fils à côté, on le charrie pas, quoi.
J'ai aimé une dépendance. Mais ensuite, j'ai découvert que c'était un gros nanar. Et donc, j'attends la suite parce que c'est un. Voilà, c'est un film qu'on n'attendait pas en plus, quoi, le truc. On se dit pourquoi ? Pourquoi ? Voilà.
Je confirme.
Vous avez décidé au bout de 20 ans de faire ça, bon, tout le monde l'attendait et tout, non ?
Non, a priori, vu comme le film, c'est un gros four, ça n'intéresse personne.
Ça fait un gros four, effectivement. Mais voilà, ça a l'air tellement over the top, comme Roland Emmerich le fait habituellement, que ouais, ça sent le gros blockbuster boursouflé estival qu'on a envie de voir.
De
désinguer, oui.
Kéfren, je crois savoir que tu t'apprêtes à défendre ce film.
Non, mais je ne l'ai pas vu, donc je peux pas défendre un film que j'ai pas vu.
Par contre, on peut l'attaquer.
Il y a 20 ans, quand j'avais un an.
Oui, exactement. Moi, Independence Day, ça a l'air d'être un gros délire, justement. Un peu comme les films de Michael Bay, donc...
Mais j'ai un peu peur justement sur la bande-annonce, on a l'impression que c'est beaucoup moins second degré que...
Le premier était sérieux quand même.
Mais où est-ce que tu as vu la bande-annonce ?
Justin.
Et puis il y a un problème aussi, c'est que malgré tout le premier Independence Day, à l'époque où il est sorti, c'est une époque où on avait plus ce genre de film d'invasion extraterrestre. Il y a eu Mars Attack l'année d'après, mais juste avant l'année. Donc il y avait quand même, c'est après, c'est
98.
C'est un météore, il n'y a pas d'invasion.
Oui, mais bon, c'était, voilà.
C'est plus le côté, les Martiens nous envahissent, quoi. On n'en avait plus depuis les années, pratiquement 50, vraiment, les aliens belliqueux, les envahisseurs. Donc c'était quand même nouveau, entre guillemets, voilà, c'était du jamais vu à l'époque. Alors que là, des destructions massives, on en bouffe à longueur de blockbuster, même la bande-annonce... Ah, c'est de la destruction numérique comme on en voit à la chaîne depuis 4-5 ans, donc il n'y a même pas au moins ce côté un peu rafraîchissant du premier. Quoi.
Ouais, mais est-ce qu'ils vont sauver un labrador dans ce film ?
C'est un peu...
Ils vont pas sauver l'hiver.
Avec le chien, avec le feu derrière.
Non, mais c'est même plus la science-fiction, c'est ce qu'on appelle de la destruction porn, quoi.
Ouais,
tout simplement, voilà, c'est... Moi, le seul truc qui est intéressant dans ce film, c'est que Will Smith n'est pas dedans. Qui est sûrement l'un des pires acteurs de sa génération. Donc voilà. Exactement,
Mais
c'est pas un bon Michael Mann,
Tu sais qu'il a une sœur adoptive japonaise.
Non, mais lui, il peut être très bon quand il veut.
Quand il est bien dirigé.
Voilà, exactement.
J'ai pas aimé Ali.
Ou dans les robots.
Mais non. Ah non, pitié, pas les robots.
Le point Alex Proy.
Il est formidable dans Getting Jiggy With It. Notamment.
Non, mais ce que tout le monde attend dans Independence Day, c'est un nouveau discours du président Bill Pullman. Voilà, et le mec qui fédère tout le monde, tu vois, qui prenne son avion de chasse et qui vient buter de l'alien.
C'est pas ce qu'on craint,
l'alien.
Non, mais.
Le truc, c'est que c'est vrai qu'ils sont attendus par personne et que du coup, en plus, ils en jouent. C'est-à-dire que dans la bande-annonce, on entend déjà. il y a déjà une phrase à l'intérieur pour dire mais qu'est-ce qu'ils ont comme problème avec nos monuments à tous les buter alors que c'est vrai. C'était le concept à l'époque, c'est le premier film, c'est l'un des premiers films je pense qui explosait tous les gros monuments et qui faisait et qui a donné des années de destruction quoi en fait.
Ça a été le point de départ du World Trade Center en fait, c'est ça qui a inspiré je crois
Belle Lazare. Daesh en fait, ouais, c'est ça.
Comme quoi ce voilà. film peut inspirer des gens finalement.
Attendez-vous à d'autres attentats après.
Hein. Ça, non mais le premier film c'est quand même un des plus mauvais qu'on a vu.
Le problème, c'est vraiment je ne fais que des navires.
Non, mais non, c'est sûr, voilà. On ne peut pas dire, on ne peut pas dire du tout qu'il y a ce second. Non,
enfin, Marcel a dirigé Jean-Claude Van Damme.
Oui, c'est vrai. C'est meilleur film.
Je rappelle donc Independence et Résurgence sort le 20 juillet, le même jour que Man on High Hill de Jong Jin. Donc le 20 juillet que vous pouvez aller voir.
En plein été, quoi.
Deuxième blockbuster de l'été, le 3 août, sort Suicide Squad de David Ayer, Jérémy.
C'est avec Will Smith.
De nouveau par toi.
Ah oui.
Avec Will Smith qui a refusé donc Independence Day.
Et il pouvait pas être dans deux salles en même temps, quoi. C'est ça. Non,
oui, bon, il a refusé Django Unchained juste avant, donc bon, c'est une très bonne idée. Donc, Suicide Squad, en fait, c'est le film qui m'énerve déjà avant de l'avoir vu.
Pareil.
Parce que je sens que ça va être le truc faussement subversif, méga cool de la mort avec des punchlines toutes les 5 minutes.
Et Jared Leto.
Et David Ayer aussi qui, franchement, voilà quoi.
Ah, End of Watch, c'est pas mal.
Oui, il a fait un bon film sur 23.
Fury,
c'est pas mal. Non. Il a fait quoi,
David Ayer? Fury et End of Watch.
Qui était bien.
Ouais, et
Sabotage qui était une merde absolue.
Ouais, c'est une 5-12. Hein.
Ouais, voilà, donc on est d'accord en fait. On est un zaz quoi. Et voilà, je sens que ça va être vraiment ce film là qui va enterrer d'ici et qui va nous faire chier royalement. Quoi, en fait.
Bah, surtout qu'ils ont annoncé qu'il y avait eu des nombreux reshoots suite au succès de Deadpool pour ajouter plein
parce qu'ils
de.
Se calquent,
ils se disent, bah tiens, voilà, c'est ce qui marche, c'est toujours l'espèce de petite blague, les vannes à deux balles.
Voilà.
C'est, voilà,
et puis caca, super.
Exactement. Et puis, bon, voilà, il y a Will Smith, donc forcément, c'est perdant. Et l'autre raison, David Ayer, qui est pour moi un très mauvais cinéaste, sur les 5 films qu'il a fait, j'en ai vu 3 en salle, les 3 je suis parti avant la fin. Donc mais voilà, je pense.
Hein, c'est bien de
ouais, je trouve que c'est sombre, je trouve que c'est sombre d'ailleurs. Voilà.
Mais Margot Robbie quand même.
C'est ça parce qu'elle a joué à poil dans le.
Non, parce que dans les films, c'est un personnage très bon et que
je déteste le costume.
C'est assez surprenant, c'est juste d'aller chercher ce qui est le moins connu chez eux alors qu'ils ont besoin là d'en remontrer à Marvel. D'aller chercher au fin fond des culs de leur personnage pour un truc que même les amateurs, les fans ne connaissent vraiment très moyennement. Quoi.
Ils ont vu Guardians of Galaxy à marcher ben alors que c'était quand même des personnes.
Marvel, on reste autour pour pouvoir ramener Guardians of Galaxy. Eux, ils ont leur succès très mitigé de ces derniers.
Ils se calquent sur Marvel, ils essayent de. Voilà,
Ah, mais c'est trop tôt pour le faire, ça. Après, du coup. Ils auraient dû sortir bien après, une fois qu'ils auraient eu quelques blockbusters
ils sont
bien installés. Quoi.
Ah, oui, mais non.
Du coup, ce genre de film, c'est typiquement celui-là qui va nous entraîner 5 Batman d'affilée. Ils vont annuler tous leurs projets. Et mettre que du Batman pour être sûr d'avoir des vrais succès.
Et si c'est bien fait comme Batman, moi je suis pour.
Je suis assez d'accord. Alors, du côté, je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que Suicide Squad a un vrai potentiel pour marcher. C'est un film qui est assez attendu. Les gens connaissent pas forcément. Effectivement, il y a ce côté outsider. Les gens ont aimé Deadpool, quand même, d'une manière générale. Ont aimé les Gardiens de la Galaxie. Et s'attendent à des franchises un peu différentes. Donc ça peut amener un certain succès et encourager effectivement. En fait. Alors, moi j'en espère pas forcément différent, mais ça veut pas dire que les gens ne pensent pas que c'est différent et donc vont aller le voir en se disant c'est quelque chose qu'on connaît, mais ça peut être quelque chose d'un petit peu différent.
Sauf que le studio,
est déjà prêt à déjà sortir une version un peu édulcorée pour que ça puisse toucher le plus de.
Mais de départ, ils ont dit
sortir la vraie version.
Dès le départ, ils ont dit ce sera du PG-13. Il n'y a pas eu d'ambiguïté avec ça. Ils ont dit non, ce sera pas comme Deadpool. Ils ont dit dès le départ, il hein. n'y a pas d'ambiguïté.
Moi, j'ai envie d'y croire dans ce film-là.
Et du coup, moi aussi, parce que
j'ai vraiment envie d'y croire.
Mais David Ayer, en fait, il a fait l'horrible Sabotage, mais c'est surtout parce que c'était scénarisé par l'horrible Skip Wood, qui est le plus gros tâcheron de l'histoire des scénaristes de Hollywood. Mais David Ayer, il y a quand même quelque chose dans sa mise en scène de viscéral, d'organique, que je trouve intéressant, qu'on trouvait dans Fury notamment.
Et je trouve que là, pour le coup, d'avoir un, de diriger peut-être une espèce de gang anti-héros comme ça, ça peut être intéressant.
Ah, mais tu veux avoir un truc le style ailleurs, tu, quand j'ai vu le trailer, mais le style ailleurs, tu le retrouves pas dans le trailer.
Il faut le voir après, sur le long terme, enfin, sur le, avec un vrai... Ce
sont pas des anti-héros, ce sont des
côtés gros tatoués.
Super vilains, mais
c'est un anti-héros, d'accord, on a compris, mais sinon... Le côté un peu documentaire, etc., qu'il a d'habitude.
Caméra à l'épaule,
Mais faut voir le film.
Oui, là, c'est plus compliqué.
Non, mais caméra à l'épaule, etc.
Faut voir le film.
Mais tu le vois sur certains plans.
Moi, j'ai quand même envie de croire en ce film.
C'est une caméra à l'épaule, quasiment tout le truc, et ça fait mal à la tête.
Ouais, non, mais c'est caméra à l'épaule, pas dans.
Gaël, est-ce que tu attends Suicide Squad?
Alors, oui.
Pourquoi?
Pour Margot Robbie.
Non mais je trouve qu'il y a une évolution ça, dans les rôles qu'elle prend et que ce soit le Wall Street, le film
avec Will Smith encore.
Oui, il y a Jean Short. Et celui-ci, il y a une évolution sur ce que vouloir dire le capitalisme à travers elle, en fait. C'est un délire que je me fais dans la tête, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'y vais, en fait, parce que j'ai l'impression que là, elle a le rôle le plus taré qui soit, et ça m'intéresse de voir ce qu'il...
Ils vont rien en faire, parce que moi, je me sens qu'ils vont...
Il y a déjà Spinoff qui est pas fini.
Mais ça se voit dans le trailer qu'ils vont rien en faire.
Ça se voit, on la voit sur 5
punchlines. Elle va balancer 5 punchlines, et puis elle va faire « Oh, je suis sexy, mais en même temps, je suis folle. » Elle va taper, elle va faire...
Il y a déjà Spinoff, elle a le rôle central.
Mais c'est pas nous, alors que les trailers sont à côté de la plaque.
Après, oui, non, mais d'accord, mais moi, c'est pas vu le film, donc je joue sur un trailer.
Arlette, tu vas pas en faire une...
Je me souviens déjà quand j'ai vu
le trailer. J'aime beaucoup l'actrice, mais ils en font rien.
Sidi, est-ce que tu attends Suicide Squad avec impatience?
Absolument pas. I don't care.
Alors, quand il le dit en anglais, c'est rare.
Voilà.
Pour nos auditeurs, I don't care veut dire je m'en fous.
C'est ça.
Donc, Suicide Squad de David Ayer sort le 3 août. Il n'y a pas de film asiatique qui sort le 3 août, donc vous pouvez quand même aller le voir. On ne sait jamais.
Voilà.
Next. SOS Fantôme.
Moi, j'ai suivi de
Nicolas.
J'ai suivi de loin.
S'il vous plaît, Nicolas.
En fait, j'ai pas suivi de près ce qui se passe, la polémique aux États-Unis avec genre les dislikes sur les bandes annonces de YouTube, je sais pas quoi. Ça se passe.
Non, mais partout. Loin,
mais pourquoi en fait, je comprends pas.
Parce que c'est des femmes.
Mais juste pour ça aussi. Parce que ça.
Ouais, c'est l'original. Alors, c'était des hommes. Alors là, les gens.
C'est pas des hommes.
S'il vous plaît.
Juste parce que c'était horriblement mauvais.
S'il vous plaît.
Donc on est sur un film qui a une attente assez longue sur une suite qui a été annoncée plein de fois et qui n'arrivait pas. Et là, d'un coup, arrive le film avec annoncé quatre femmes à la place des rôles qu'on attendait, mais pas, qu'on n'attendait pas en même temps, puisque c'est des acteurs qui sont vraiment très vieux.
Il y en a même un qui est mort.
C'est plus vraiment un problème. Mais c'est vrai que le... Du coup, arrivé comme ça, il y a comme une espèce, il y a une levée de bouclier et en effet complètement
disproportionnée
et liée au fait que c'était les femmes, tellement liée au fait que c'était les femmes que face aux réactions, le studio a lancé en parallèle, et là du coup il n'y a plus de doute possible sur le fait que c'est parce qu'il y a des femmes en rôle principal, a lancé en parallèle un spin-off avec des acteurs hommes, avec Channing Tatum et Channing Tatum. Il est en préparation et donc derrière, donc quelque part il est évident, alors qu'on est sur quelque chose qui est quand même assez similaire, hein, parce que les bandes annonces, il y a eu vraiment des critiques qui n'avaient pas de sens. Il y en a qui disaient que ça faisait trop peur, d'autres que c'était drôle d'humour, alors que le film en lui-même était joué un peu sur les deux.
Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu?
Non, justement, depuis que le trailer est sorti, le réalisateur et les actrices défendent le film alors qu'ils ont, même pas de tâche. Ils disent je peux pas vous montrer, mais je vous dis que vous allez.
C'est Paul Feig quand même, c'est pas non plus n'importe qui.
Voilà, Paul Feig.
Il a fait Mes Meilleurs Amis qui était.
C'est ça, mais en plus, si on prend comparativement les acteurs de l'époque. Les acteurs de l'époque, on est vraiment sur le même type d'acteurs.
Oui, en fait, c'est le même niveau du Saturday Night Live, en fait.
C'est exactement la même logique, sauf que c'est des femmes.
Et le même niveau de notoriété, c'est ça qui est plus impressionnant, c'est qu'ils ont eu même des succès plus impressionnants que les acteurs de l'époque.
Et surtout avec
un remake.
Et c'est pas un remake, c'est un genre
spin-off.
C'est-à-dire qu'ils existent, je crois qu'il y en a qui viennent dedans, il y a une morée qui passe dedans. Et donc c'est une autre équipe, en fait, simplement.
Ouais. Oui, une autre équipe, mais du coup...
C'est un spin-off remake, parce que l'intrigue est dans la balance, tu vois, clairement...
C'est un spin-off remake,
sachant qu'il y a 4 femmes dedans, en fait, dans un vrai remake qui va apporter quelque chose de frais, vraiment.
Amandine.
Mais le réalisateur lui-même du premier Ghostbuster a défendu le film en disant qu'il trouvait la polémique complètement injuste, que lui ne voyait pas où était le problème qu'il y ait des femmes, et le réalisateur lui-même s'est fait après insulter par les fans du premier blockbuster.
Il faut bien savoir, c'est qu'on est ici dans la communauté geek reste la communauté la plus conservatrice en termes de femmes.
C'est la communauté freaks and geeks, je dirais. Quand on voit comment ils agissent,
oui, voilà. C'est-à-dire que les mecs, si tu le Batman sur son casque, il n'a pas la bonne odeur, la bonne taille d'oreille, les mecs, ils pètent un câble, faut bien savoir. Hein. J'ai vu des discussions sur des forums où ça n'en finissait pas, genre, Batman n'a pas la bonne taille d'oreille. Donc,
c'est pas vu pour... Mais là, c'est plus global. Oui, bien sûr. Sur des fans de super-héros, là, on est sur beaucoup plus...
Ouais, mais c'est la communauté geek, c'est les mecs qui vont au Comic-Con de San Diego, des choses comme ça. Donc, voilà, les films Amblin ou années 80... En réalité, ce sont les premiers films, les premiers joyaux de la communauté geek. Le cinéma geek est né avec Star Wars. Donc pour eux, ce qui arrive avant n'existe pas. Et ils sont toujours en espèce de circuit fermé. Ils portent au nu certains de ces films. Ghostbusters, ça fait longtemps qu'on parle en effet de pseudo-suite. Bill Murray, il a annoncé qu'il y en aurait, ça s'est désisté. Donc ça fait 10 ans en tout cas que la machine est en route et qu'on voit rien arriver, et bon bah forcément ils sont juste misogynes, mais c'est tout,
c'est générationnel,
c'est flagrant,
quoi.
Mais là,
c'est pas genre discret.
Tu parlais de Star Wars et la communauté geek, il y a eu les mêmes réactions pour la bande-annonce de Rogue One. C'est-à-dire que les gens s'insurgeaient, tu voyais les commentaires, ils disaient c'est bon, vous avez déjà eu une femme en personnage principal du set, oui. Ouais. On va pas en mettre une dans le spin-off. Les gens ont pété un câble parce que c'était encore une femme, que ça avait pas
ils avaient déjà pété un câble parce qu'il y avait un noir qui était le héros.
Ah ouais, mais pour le set, il y avait une femme et un noir, alors là.
Ça fait un peu beaucoup.
Ouais, voilà, il faut le préparer.
C'est ça, quand même.
Il faut pas bouger aussi.
Et le super Stormtrooper, c'est une femme dedans.
Alors là, où on va, quoi. Non, on la voit pas à l'écran. Beaucoup.
Ouais, mais à 4 d'un coup, ça fait quand même beaucoup.
Donc, SOS Fantôme, de quoi le faire,
ça va, mais
d'après ce que je comprends, on va lui donner une chance, d'après ce que... Moi, ce qui me gêne, c'est pas que ce soit des femmes, c'est qu'on fasse un remake de...
Sachant que la plupart de ces films se plantent littéralement. Dès qu'on essaie de leur faire Conan, on essaie de leur faire Robocop, on essaie de faire tous ces gros classiques du passé...
On est là, je pense, avec ce casting-là, il y a quand même du potentiel. Avec ce casting-là, ça valait le coup de tenter le
faire. C'est presque un accident quand tu regardes Ghostbusters, le précédent, il est... Il y a un côté à moitié film d'horreur, à moitié film fantastique, film comique. Est-ce qu'aujourd'hui, de faire un truc aussi...
Sachant quand ils ont voulu le refaire avec le 2, c'était complètement
raté. Ivan Reitman n'a pas réussi à refaire un film comme ça, il a essayé pourtant.
Jamais.
Il a refait le
2, il
a fait Ghostbusters 15 fois. Evolution, c'est un remake de Ghostbusters.
Ouais, c'est ça.
C'était drôle,
les
ouais.
Et on va finir par Star Trek Sans Limite, c'est le vrai titre français, comme le film Sans Limite, de Justin Lin, qui sort également le 10 août. Donc, J.J. Abrams est remplacé par Justin Lin, et c'est Rihanna qui fait la musique. Ah. Est-ce qu'on est
en droit
de
l'attendre?
Oui, bah écoute, j'étais pas spécialement fan du premier Star Trek de J.J. Abrams. Je trouvais ça un peu bourrin, je dois avouer. Voilà. Le deuxième a au moins eu le mérite sans m'intéresser
avec
vraiment.
Avec Justin Lin, le réalisateur de Fast and Furious, ça va être beaucoup moins bourrin.
Ouais, je pense que c'est pour
mais
ça.
Mais
c'est
Fast and Furious combien?
On a gagné
deux. J'en attends tous. J'en attends pas grand chose non plus, en fait. Mais le deuxième avait pour lui d'être assez reposant, on va dire.
4, 5, 6.
Mais voilà, j'attends pas ça avec beaucoup d'impatience. Voilà.
Justin ?
Moi je l'attends quand même parce que ça a l'air de retrouver le côté un peu exploration de Star Trek, quoi. Il n'y a pas du tout dans le deuxième où il nous a refait une espèce de mix avec des rebondissements à la Dark Knight, avec un côté sombre, c'est pas trop exotique
c'est
par rapport
de
à...
Cas,
hein, bah, Petit bras quand même. Quoi. Et puis il n'y a pas le côté évasion quand même qu'on attend d'un Star Wars, le côté space opéra.
C'était le juste...
Voilà, oui, c'est ça. Bah, t'as le même rebondissement que tu vois. Non.
Mais par contre, il annonce à chaque fois. Annonce, ils annoncent des voyages. Voilà, oui, c'est mais il n'y en a jamais. À chaque fois, c'est, ouais, c'est une attente qui est déçue.
Là, j'espère que
pour le troisième, ça a l'air de vraiment.
Exploration, voyage.
Parce que c'est quand même ça la base de la série. La série, c'est ça.
Mais ça dépend laquelle série.
Oui, enfin, je prends la première.
Oui, mais oui.
Parce que Next Generation.
T'as une série qui est basée sur une qui est très inspirée de Babylon 5 et autres, donc avec une station spatiale, il n'y a plus d'exploration, c'est de politique. Donc Star Trek, c'est... Bon, je déteste Star Trek. Hein,
mais on a perdu 70%.
Star Trek est un univers extrêmement vaste.
Oui, mais bon, là, je me dis, en reprenant voilà, Capitaine Kirk, Monsieur Spock, j'imagine que voilà, on va retrouver quand même
là, oui, d'accord.
Cet esprit-là.
Oui, mais je pense qu'ils ont repris ces personnages-là parce que c'est les personnages les plus emblématiques, les plus connus, et, mais qu'ils ont voulu se permettre des choses, justement, du fait d'un univers tellement vaste, ils se sont dit qu'ils pouvaient pas faire un peu tout ce qu'ils voulaient, quoi.
Par contre,
Star Trek. Lui, c'est spécialiste, il lance quelque chose et puis après, il se casse.
Mais non, mais il y a toujours son Nicolas. Il y a quand même quoi, que 70-80% de l'équipe créative derrière les deux premiers qui est toujours là. Enfin,
il n'est pas là.
Bon, donc c'est un réalisateur qui a commencé le film qui est
mort. Justin Lin, c'est... Bon, il a
en fait
fait des bons films. Et je le répéterai jusqu'à ma mort, Fast and Furious 5 est un film d'action honnête, donc je pense que...
Ta mort qui va se faire dessus.
Il y a vraiment
pire, ouais. Ah, mais je le soutiens.
Voilà, ah oui, vous comprenez.
Sur son lit de mort, il va
faire... J'ai pleuré un soutien, les gars.
C'est un film d'action honnête.
C'est vrai, son film de
commentaire. La destruction de la ville, Star Trek sans limite, on n'a rien compris du tout. Est-ce qu'on doit aller le voir ou pas? On ne sait pas. Est-ce qu'on l'attend ou pas? On ne sait pas. Mais
si,
en tout cas,
faut aller voir
on s'en fout.
Parce qu'il faut rendre hommage à Anton Yelchin, comme vous.
C'était important de le dire.
Et puis, il paraît-il que Sumu fait son coming out en film.
Oui. En hommage à Marc
Ouais.
Néanmoins, outre ces blockbusters, il y a des films intéressants qui sortent cet été et je vais vous demander à chacun un conseil ou une attente sur les films de l'été.
Tony Bierman
qui est prêt. Martin.
Moi j'ai pas vu, je sais qu'en tout cas c'était le film qui a été adoubé par toute la critique et les spectateurs à Cannes, c'est Tony Bierman qui a été honteusement paraît-il boudé du palmarès, mais quand même toujours. Donc voilà, ils le sortent forcément.
Il y a quand même des affiches sur plein
oui, Paris. Mais en plein mois d'août, il faut bien savoir
le
c'est que...
Le film préféré de la presse et des spectateurs.
comment ils ont su ça?
Parce que la presse,
parce que la France a rigolé à Cannes.
Vraiment rigolé, qu'il y a eu des applaudissements.
Voilà, mais le sort en plein mois d'août, le truc, il est déjà condamné, le film.
Bah non, c'est ce que c'est des dernières années, il y a pas mal de palmes d'or ou de films qui ont bien marché. Ces dernières années, il y a pas mal de succès.
S'il vous plaît, on n'entend plus rien, on va faire un dernier tour de table pour finir ce podcast avec un conseil ou une attente sur l'été de chacun. Jérémy.
Il regarde à l'ociné là.
Flavien. Je reviens à toi après. Hein.
C'est aussi bien sur des films récents que des ressorties.
Ça peut être des ressorties.
Ah, il y a des trucs
à aller voir cet été.
Il y a quand même des ressorties, il y a Little Big Man.
Oui, voilà, on a plein cette année.
D'Arthur Penn que j'ai pu revoir au Max Linder. Dans une très très belle copie et tout.
Il est tout petit au Giro.
Conseille vivement de revoir ça. Et si jamais aussi un petit cinéma qui refait passer des films de Michael Cimino, c'est aussi le moment.
Et la filmothèque en ce moment.
La filmothèque du quartier latin.
Même les portes du paradis.
Enfin, pour les Parisiens.
Au bout de l'enfer, pour les paradis, l'année du paradis.
Très bien. Jérémy.
Bah moi je vais vous faire un conseil série. Parce que,
facile,
voilà. Je vais vous conseiller Marco Polo parce que personne ne regarde, tout le monde crache dessus, mais en fait.
C'est vrai, c'est nul. Je regarde pas.
C'est un wuxia honnête.
Et dévastateur.
Très beau.
Dévastateur,
et voilà, allez-y.
Moi j'ai attaqué la saison 2, j'adore. Hein.
C'est sur Netflix, allez-y. Quoi.
Yves.
J'ai pas du temps de regarder.
Je suis pas encore au mois d'août là.
Juste un oreille. En ce moment, jusqu'à la fin juillet. Jusqu'à la fin juillet, ça devrait être encore le cas au moment où vous écouterez le podcast. Il y a la rétro John Huston à la Cinémathèque, donc laquelle a quasiment l'intégrale. Hein. John Huston. Donc voilà. La nuit de l'iguane, le faucon maltais,
les accès.
Moulin Rouge.
Qui voulait voilà, être roi.
Exactement. C'est l'occasion.
C'est bien.
Divine, Ouda Benyamina.
Je sors cet été aussi. Ouais.
Je ça, je l'attends avec impatience.
Ça
sort
quand
fin août.
Ouais.
Fin août.
Ouais.
Déjà que j'ai
le cul
tombé. Tu sors parce qu'il a dit.
Ils ont eu un prix encore.
Un film qui a dit Pizza.
C'est un film qui a dit Pizza.
La
vie
gagne.
Non, elle a déjà, enfin, avec ses derniers, ses précédents films, le court et le moyen. Je me souviens, sur la route du paradis, le métrage sur la route du paradis. Enfin voilà, c'est déjà on sentait qu'elle avait un talent, un style très très rentre dedans. Et j'attends avec impatience. Alors depuis sa victoire canoise, j'attends vraiment avec impatience ce long métrage. Il n'a pas encore fini.
Non, si. Moi, je renforce juste pour dire que Little Big Man, oui, c'est si je n'ai pas encore fini.
C'est ça
pour ça. Oui, parce qu'il y a vraiment.
Et la rétro,
j'ai regardé justement ce qu'il y avait sur les sorties.
Au mois d'août, il y a Predator aussi qui ressort.
Au mois d'août.
Lequel?
Predator, le premier.
Le premier?
Ah, j'ai pas vu sur
le. J'ai pas vu dans le truc d'arrêt. Et donc du coup, comment dire, en tout cas, ça retenté Little Big Man, pour ceux qui n'ont pas vu, ça vaut vraiment le coup.
Voilà, j'ai bon.
Sidi.
Oui, Sidi. Non, moi ça sera Resté Vertical. De,
moi aussi j'en étais sûr.
D'Alain Guiraudy, je crois que tout le monde commence à me connaître un peu. Bah, pourquoi Resté Vertical? Parce que c'est.
Parce que
c'est Alain Guiraudy, mais surtout parce que je crois que c'est. Ce film marque vraiment l'idée qu'il a franchi un pas. C'est-à-dire qu'au début il allait vers la fantaisie, peut-être pour ne pas faire frontalement face, on va dire, à ses idées, au niveau politique, mais aussi de sa vision de la sexualité. Et là tu sens que depuis ce qu'il a osé faire avec L'Inconnu du Lac, c'est-à-dire filmer sous un apparent apaisement la crudité des rencontres sexuelles d'un monde qu'il connaît, qu'il avoue fréquenter d'une certaine manière, on sent qu'il a quand même franchi un cap, et que dans ce film-là, il y a presque une synthèse entre le premier Guiraudy et le Guiraudy un peu fantaisiste, parfois même un peu surréaliste, il y a des scènes surréalistes dans ce film, et le Guiraudy un petit peu plus, on va dire, frontal. Et il y a notamment une scène de sexe dont je ne dirai rien ici, mais qui est, qui je pense est une des grandes scènes de l'année.
Oula, en fait c'est juste pour ça.
Elle est verticale.
Une scène très verticale, oui. Non, et puis c'est surtout un film qui, avec un personnage passionnant.
Ah bah tu m'étonnes.
Qui se cherche tout du long.
Ils ont fait du long de coup.
Respecter un petit peu les.
C'est dur, hein.
L'essentiel.
Hein
oui, oui, je ramasse les pots cassés de mon comportement inacceptable.
Ah, voilà.
Et ben voilà. Voilà, allez voir Guillaume. Voilà.
Tu as pu pénétrer.
Je suis d'accord.
La personnalité, cette.
Je suis d'accord aussi avec ça.
Voilà, je crois que Yves là aussi. Hein. Il a
ça. Ouais, j'avais envie de dire ça aussi, qu'il faut absolument pas se gêner tous ces
gens. Voilà. Voilà.
Elvira.
Kefren.
Désolé. Ah, branche-toi du micro.
Donc, moi je dis. Bah, déjà, faut voir la rétro Wes Craven à la Cinémathèque française. Malgré la nuit de Philippe Gondrieux. Qui a
sorti... l'a toujours pas vu.
Ouais, mais c'est pas grave, c'est Philippe Gondrieux.
C'est une attente. C'est une attente.
Qui, pour lui. Qui a des critiques très mitigées d'ailleurs, le Gondrieux.
Oui, mais c'est toujours comme ça, le Gondrieux. Mais il fait que
non,
des chefs d'œuvre.
Ah non, pas que des chefs d'œuvre. Un axe, c'est quelque chose.
Il n'est pas d'accord. Ouh, c'est bon.
Et donc, et aussi la ressortie de, je crois, de La Ligne Rouge de Terrence Malick.
Pour la deuxième fois, première fois.
Et aussi de L'été des vampires de Mario Bava.
La planète des vampires.
La planète des vampires. Et je crois.
On le gardera de manière hétérodigée.
C'est tout en fait.
Vu ton enthousiasme, je crois que les gens vont se ruer vers ces films.
Bah, oui.
Ensemble.
Alors,
allez les voir.
mais au moins là, la rétro West Craven.
Bon, rétro West Craven alors.
Mais montre que tu souris, que t'es content, que t'en veux, bordel.
Non, mais normalement.
Chante quoi.
Les gens devraient y aller de même.
Fais comme Sidi quoi.
Voilà, un podcast tout le monde.
Comme toi, non.
Elias.
Alors.
Rapproche-toi du micro également.
Alors, moi je vais un peu tricher parce qu'il y a vraiment rien qui sort cet été. Et donc, mon attente, c'est un film qui sera peut-être en festival. Donc, j'ai parlé tout à l'heure dans un podcast sur son notion. Qui est à la fois en fait mon attente et mon conseil. Parce que ça
tu en parleras plus tard.
Et bam, dans ta gueule.
Pour l'instant, il sort pas alors. Tu ne sors un film qui sort pas.
Mais il n'y a rien qui sort.
Alors, tu passes la parole au prochain.
Dis-le à ça. Alors, donc, j'ai très très hâte à la fois de revoir en comprenant tout le film. Parce que j'ai vu son sous-titre en japonais, Whispering Star. Et je peux pas vous conseiller parce que même si on comprend rien, c'est très très beau.
Mais on peut pas le voir.
Mais oui, il sortira en festival avec
nous. Non, mais attends, arrête de déconner. Mais attends, tu nous sors un film qui sort.
On en sait rien.
Bah alors, j'ai extrêmement hâte de voir. Diastem, juillet. Juillet ou de Diastem.
Non, c'est horrible, je l'ai vu à Cannes, c'est horrible.
Ah oui, c'est vrai, tu l'as vu. Comme,
J'avais pas détesté.
Bah, dans ce cas-là, je vais parler de ça.
Alors, je l'avais pas vu, mais là, c'est vraiment le téléfilm FR3, même pas France 3.
Ah, moi, j'ai envie de dire, qu'il faut aller voir In the Room de Eric Koh.
Effectivement,
ça s'appelle Hôtel Singapour.
Hôtel Singapour.
J'ai eu
une mauvaise critique
dessus.
Mais pas sur les salles.
Pas sur les salles.
Désolé.
Gaël, quelle est ton attente de ton conseil?
Un conseil, c'est je vous conseille un film, une série B, qui s'assume totalement série B, c'est-à-dire c'est pas un grand film, mais je pense que c'est un film parfait pour l'été. American Nightmare 3, l'élection.
Ah, il est bien, ouais, c'est pas vraiment.
Ah, ouais, il est bien.
Apparemment, il est bien mieux que
le premier. Je déconne pas, le 2 est taché.
Bah, écoutez, Gaël en parlait.
Non, mais enfin, voilà, enfin, en fait, le réalisateur est fan de Carpenter. Il avait produit Assaut de Richet. Le premier American Nightmare, c'est un remake de Assaut. Enfin, je veux dire, le mec, il est obsédé par Carpenter. American Nightmare 2. C'était clairement un gros clin d'œil à Invasion Los Angeles. Quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il délaisse un peu Carpenter et il va plutôt voir du côté de Romero. Et déjà, ça fait du bien un peu de sentir qu'il peut penser à autre chose que Carpenter.
Ce qui est intéressant, c'est que le premier, c'était comme super brouillon, même le deuxième, c'était comme super brouillon. On sent que c'est un mec qui se cherche en permanence. Et peut-être qu'un jour, enfin j'ai pas vu le 3, peut-être que c'est un mais peut-être qu'un jour il a fait un bon film, je pense.
Bah peut-être, oui, peut-être.
Le deuxième, c'est mieux déjà que le premier, j'ai l'impression qu'à chaque fois il prend des
incohérences. Là, il y a plein d'incohérences scénaristiques et genre de choses, mais bon, on s'en fout. Enfin, on prend une pizza, on voit de la bière,
c'est. Il y a un vrai propos politique.
Il y a un vrai propos politique. C'est vrai que je suis allé le voir à la collection de presse, et le même jour, il y avait une manifestation contre les violences policières aux États-Unis.
Oui, de vous.
Mais d'accord.
Mais non, mais c'est au même. Et en même temps, c'est ce que ça raconte, le film raconte ça aussi. Et le fait que la police américaine a tendance à tuer assez facilement les Noirs. Et ce jour-là, en fait, il y a un black qui a tué 5 flics. Et American Nightmare 3, il y a ça. Il y a ce côté. Une guerre civile entre deux communautés. Et donc, clairement, le cinéaste prend parti plutôt des blacks. Et les blancs, c'est avant tout c'est voir des nazis. C'est vraiment une série B basique, une série efficace.
Méga basique.
Je trouve que c'est vraiment pas bête. Voilà.
Très bien, donc American Nightmare. Wow. Amandine.
Oui, alors moi j'aurais une série et un film. Je peux dire les deux.
Ah, tu peux dire les deux.
Marco Polo et Little Big Man.
Non. Le film, ça serait celui de Rico aussi, Zoom. Qui, moi je l'ai bien aimé au début, je savais pas. Quand je suis sortie de la salle, je savais pas si j'avais une
enfance.
C'est Singapouria.
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 Ça fait froid là.
Hôtel Singapouria.
Hétérodile.
Vas-y, continue.
Oui, je le trouve intéressant parce qu'il regroupe un petit peu tout ce qu'il a déjà fait avant et ce qu'il souhaite faire plus tard, c'est ce qu'en tout cas il a dit. Ce qu'il voulait faire, notamment, c'est un film en plusieurs segments qui tourne sur la même chambre d'hôtel pendant des années, et on voit la décrépitude de cet hôtel au fur et à mesure, etc. Il y a tout un propos presque fantastique aussi qui arrive, sans trop d'explication d'ailleurs. C'est un film vraiment très intéressant parce que quand il reprend les années 40, 60 ou 70, il reprend aussi les codes esthétiques de ces films-là. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un travail, même si du coup, quand on arrive sur les années 2090, on ressent un petit peu moins. On arrive tout de suite à ressortir des personnages clés que le réalisateur, on sent qu'il tient. On sent les personnages qu'il a voulu plus écrire, je pense au chanteur Damien, qui est une sorte de fantôme vraiment tout au long du film, mais aussi une femme japonaise qui va rester avec l'hôtel en gros. Et ça, c'est un film donc multiculturel, très intéressant, enfin, et esthétiquement très beau, et qui en plus nous annonce plus ou moins ce que Riku va faire bientôt, en gros. Avec notamment dans les années 60, une femme qui, pareil, éduquait des prostituées, etc., à prendre le pouvoir, entre guillemets, j'ai trouvé ça très intéressant. Et pour la série, c'est une série qui s'est terminée sans prévenir, les réalisateurs ont dit qu'ils arrêtaient la série après la diffusion de l'épisode en fait, et c'est Penny Dreadful. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé, déjà j'adore Eva Green, donc c'est pas très objectif forcément, mais j'ai trouvé l'ambiance gothique absolument magnifique. C'est une série qui de saison en saison devient meilleure en fait. J'avais eu un gros coup de cœur pour la saison 1, j'ai vu la saison 2, je suis allée encore mieux que la saison 1, et la saison 3, je me suis dit la même chose. Donc voilà, la fin est très belle, ils se sont pas reprochés un problème de un traitement un peu expéditif sur certains personnages, je trouve. Ça fait vraiment une fin auquel on s'y attendait pas, parce que moi je voyais une progression sur les personnages, je pensais pas que ça allait s'arrêter. Ils ont quand même réussi à démêler la chose, et voilà, c'est un gros coup de cœur. Les acteurs sont excellents, il y a une relecture du gothisme anglais qui est vraiment très intéressante, et en plus c'est que 3 saisons et c'est sur Netflix. Donc, voilà.
Et Yass, je crois que tu voulais rajouter quelque
chose.
Oui,
en fait, du coup, j'ai enfin trouvé un vrai film qui est sorti, que vous pourrez voir, d'ailleurs, que déjà que les gens ont déjà vu. En fait, il y a un site de VOD qui s'appelle Outbuster, qui a commencé récemment, et qui sort en VOD, donc le sublime Being Good de
Partenaire Estasia.
Partenaire Estasia. Donc le sublime Being Good de Mipo qu'on a vu à Vesoul, qui est que d'ailleurs, je pense, c'est le meilleur film festival, et je pense que c'est unanime dans l'équipe. On peut dire que c'était le meilleur film festival de Vesoul de cette année-là.
Donc, mais c'est un peu ton conseil depuis février. Hein.
Non, oui, c'est vrai en vrai.
C'est vrai.
Ouais. Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. Là, pour le coup, c'est une bonne raison.
Là, c'est une bonne raison.
Il est disponible.
Il est disponible en France.
Enfin, il faut penser peut-être à le virer. Hein. C'est le mercato.
Il y a d'autres.
Moi, je sais que je serai pas en signé, donc j'ai rien à perdre. Moi, c'est à la retraite. Moi, je suis foutu. Moi, ça y est, je
dois trouver.
Ça y est,
Yannick. Alors oui, il y a The Waves qui sort fin juillet, du film catastrophe du réalisateur de Cold Press, que j'ai pu voir au PIF.
C'est quoi le...
The Waves. Donc bon, c'est un film catastrophe très classique, très premier degré, par moments bancal, il y a un côté larmoyant un petit peu trop important, etc. Mais il y a une certaine fraîcheur parmi tous ces blockbusters catastrophes américains qu'on se tape depuis au moins une décennie. Il y a une grande fraîcheur dans ce film-là. Il y a des séquences catastrophes qui valent vraiment le coup, qui sont assez vraiment impressionnantes. Et le film mérite d'être vu.
Nicolas.
Alors moi je conseillerais à nouveau des films canois qui sortent cet été. Bah, Tony Herman, comme l'a dit Martin. Le film roumain de 2h53, Sierra Nevada.
Ça donne grave envie.
Voilà comment donner envie.
C'est
la
extrême droite, c'est du
coup. Tu peux rater
le roumain de 2h53. Tu t'avais dit un film africain de 2h53. Un film roumain qui bien sûr dure 2h53.
Ça va être génial.
Tu peux rappeler
2h53, chiant, mais
tu peux rappeler
un film de voleur de poule.
S'il vous plaît, on arrive presque à la fin.
Voilà, courage, Victor. Il avait du mal à le dire jusqu'à la fin.
Oui, donc.
Vas-y, t'écoute.
Donc, tu voulais savoir quoi, tu m'as dit ?
Hétérodigite.
Conseil ou attente, hein ?
Non, là, c'est conseil.
Et conseil. Hein.
Et donc, attente.
Attente, alors.
Tony Herman, qui dure 2h40. Si, mais là, c'est vraiment.
Oui, non, mais
les deux films sont longs, mais vraiment très bons. Donc, avec Sierra Nevada. Le film Divine aussi, qui sort fin août, je crois. Tu l'as vu depuis ou pas ?
Non, maintenant, tu t'écoutes pas quand on parle.
Non, mais il y a Pierre Bell aussi.
Ah, c'est ça.
Donc, Divine.
Et aussi, Comment de Chirac, qui sort début septembre. Je sais pas si ça compte dans l'été.
Ah non, c'est août.
C'est les films de l'été.
Je rappelle que la première fois, c'était. Alors, tu devrais
connaître. C'est vrai. Le nouveau film de David Mackenzie, qui est un pur western, néo-western, série B, mais vraiment, vraiment à l'ancienne, et qui redépoussière le genre d'une façon assez magistrale.
Et Julie Gâteau.
Je confirme, c'est très bien.
Et en attente, bah, j'ai le nouveau Jason Bourne, puisque personne n'en a parlé.
Mais non, on l'a enlevé des blockbusters pourri de l'été.
Parce qu'il va pas être pourri, c'est normal.
C'est vrai.
Qu'est-ce qui réalise le Jason Bourne?
Bah, Greengrass.
Paul Greengrass.
Très attendu,
ça peut être intéressant.
C'est intéressant ce film.
Ouais, moi j'attends.
Ah, les films de Greengrass, ouais, t'as déconné, Victor, enfin, je sais pas.
Parce que justement, c'était pas marrant d'en parler vu que tout le monde l'attendait.
Je me suis dit, il faut faire des vannes là-dessus. Hein.
Faire des vannes
sur Greengrass.
Oui, c'est ça.
Mettre des vannes, on l'aimait beaucoup.
Voilà.
Mais c'est bon.
Non, très bien, bah, merci. Merci à tous pour votre attention.
Merci à tous. Merci, merci d'être allé au bout. Merci pour cette année. Hein,
43 minutes et c'est ça.
On se retrouve dans quelques semaines pour un podcast entièrement consacré à ces notions dans lequel on est, dans lequel on est beaucoup plus sage, on vous le promet, et profitez bien des films de l'été. See you, Space Cowboys.
Salut et pardon. 되지 마소이.